Matriarca, patrie, matriarca, patrie.
Le micro en main, que mon message parvienne.
C'est la révolte des femmes de ménage, des camionneuses et des petites filles bien sages.
Whatever Lola wants, Lola gets.
Résiste, prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste.
Hey, you wanna be a butch? I wanna be a butch, 'cause butch are strong and sensitive. Butchs are sexy and wonderful, powerful and brave and queer and straight lies and whores.
Et on se prend la main. Et on se prend la main. Une fille au masculin, un garçon au
l'émission pour
déranger.
Une émission féministe
les deuxièmes et quatrièmes mercredis de chaque mois
de 18h30
à 20h
sur Radio Kaleidoscope
97 FM.
1h30 de féminisme pur.
Le garçon. Le garçon avait les cheveux longs, on aurait pu lui faire un chignon, et sa mère était toute rasée. Les côtes sont tout chamboulées.
Bonsoir.
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 Alors, vous écoutez Dégenré, l'émission féministe pour déranger. Ce soir, on va vous parler de la polémique qui a eu lieu l'été dernier autour de l'introduction des études sur le genre dans les manuels de SVT. Vous en avez peut-être entendu parler. Alors on va se pencher un peu sur les arguments des opposants aux recherches sur le genre et à la théorie dite du genre et voir en quoi, en tant que féministe, nous on peut que s'insurger contre leurs arguments et du coup on va un peu démonter leurs arguments et montrer à quel point ils sont rétrogrades. Et on va aussi se pencher sur pourquoi nous ça nous semble hyper important d'aborder les questions de genre dans les manuels scolaires et en milieu scolaire en général. Mais dans un premier temps, on va peut-être revenir justement sur c'est quoi cette polémique.
Tout à fait. Donc, cette polémique, elle est apparue comme ça fin mai. Par qui ? Par tout d'abord le secrétariat général de l'enseignement catholique. Et ça a été relayé par Christine Boutin. Christine Boutin qui s'est auto-instituée porte-plume du peuple français en écrivant au ministre de l'Éducation nationale, Luc Chatel. Et elle écrit ceci. Nous ne pouvons accepter que l'école devienne un lieu de propagande où l'adolescent serait l'otage de préoccupations de groupes minoritaires en mal d'imposer une vision de la normalité que le peuple français ne partage pas. Donc voilà. Puis 80 députés de droite soutenus par l'Association des familles catholiques et aussi 113 sénateurs et sénatrices ont aussi porté la polémique du genre auprès du président de la République. En revendiquant le fait que ça n'avait rien de scientifique, que, ni de biologique, et que les concepteurs de ces théories visaient à orienter les jeunes vers des expériences sexuelles diverses, considérant que le sexe social était plus important que le sexe biologique. Donc voilà, il y a plein de confusions comme ça. Faut savoir qu'en juin, plusieurs textes, enfin un ensemble de textes contre les nouveaux programmes des manuels scolaires en première L et ES ont été diffusés, ont été publiés, et qu'une pétition a été lancée avec comme intitulé « Défendons la liberté de conscience à l'école ». Et cette pétition a quand même recueilli jusqu'à aujourd'hui environ 26 600 signatures. Donc c'est quand même pas mal. Cette polémique ne s'arrêtant pas là, en septembre, un autre député UMP, qui s'appelle Jean-Marc Nem, a dénoncé donc aussi ces manuels auprès de ce qu'on appelle la MIVILUD, c'est-à-dire la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Donc tous ces détracteurs et ces détractrices des nouveaux programmes et manuels de SVT en première EES et L pensent que mettre en relief la complicité des facteurs biologiques, sociaux et individuels sur lesquels reposent les identités sexuées et les sexualités serait préjudiciable à la construction identitaire des adolescents. Donc, ça, pour eux, ça n'a rien de scientifique, ça relèverait de la théorie du genre. Donc, la théorie du genre. Qu'est-ce que c'est ? Ce serait une idéologie qui proviendrait des États-Unis et qui serait en plus sans doute promue par des groupes d'homosexuels qui s'opposerait au dogme de la dualité des sexes et à l'hétérosexualité comme sexualité normale et naturelle. Donc on en est là, à peu près, de cette polémique. Polémique qui vient, donc on parlait des manuels scolaires de SVT. Donc il s'avère que au programme de 2010... un arrêté du 21 juillet 2010 qui fixe le programme d'enseignement spécifique des sciences en classe de première des séries ES et L demandait donc dans son programme une partie dont le thème était féminin-masculin. Et dans cette partie, il citait donc dans les instructions officielles, il citait cette phrase donc qui disait ce sera également l'occasion d'affirmer que si l'identité sexuelle et les rôles sexuels dans la société avec leurs stéréotypes appartiennent à la sphère publique, l'orientation sexuelle fait partie, elle, de la sphère privée. Je vous mets au défi de comprendre ce que je viens de dire et d'en tirer des conclusions. En tout cas, il se trouve que certains manuels scolaires comme Hachette, Belin, Nathan, Bordas ont pris donc cette phrase au mot et ont essayé de faire des chapitres, enfin un petit chapitre dans leur manuel et essayer d'expliciter ce que voulaient dire ces instructions.
Ce sont même des paragraphes plutôt que des chapitres.
Oui, des
quelques lignes.
Voilà. Et là, enfin, si vous avez bien entendu ce que j'ai dit, même si on n'a pas tout compris, vous verrez que dans ces instructions officielles, on ne mentionne en aucun cas la théorie du genre. En tout cas, moi, je l'ai pas vu citée dans ce que j'ai lu. Mais par contre, du coup, donc on a différentes. Je peux vous donner donc quelques petits paragraphes de comment les manuels scolaires se sont appropriés ces instructions officielles. Et ce qui a créé la polémique derrière. Donc, chez Hachette, sous le titre « Identité et orientation sexuelle », on lira « Seul sexe bien établi, le sexe biologique nous identifie mâle ou femelle. Mais ce n'est pas pour autant que nous pouvons nous qualifier de masculin ou de féminin. Cette identité sexuelle construites tout au long de notre vie, dans une interaction constante entre le biologique et le contexte socio-culturel, est pourtant décisive dans notre positionnement par rapport à l'autre. Autre petit paragraphe, sous le titre « Le genre, une construction sociale », la société construit en nous, à notre naissance, une idée des caractéristiques de notre sexe. Ce qu'on appelle le genre, c'est cette construction sociale autour du sexe. Le genre est un concept qui se réfère à la répartition des rôles masculins et féminins dans une société donnée, à un moment donné. Cette répartition contribue à la construction sociale de la masculinité et de la féminité à travers laquelle toute relation humaine est catégorisée. Tandis que la référence au sexe traduit une réalité universelle, la construction sociale du genre est variable dans le temps et l'espace. Donc ça, c'est ce qu'on peut lire chez Hachette.
Ça m'a pas l'air non plus super révolutionnaire.
Non, mais apparemment ça crée la polémique. Chez Belin, sous le titre « Devenir ou homme ou femme et vivre sa sexualité », on peut lire « Chez l'homme, il existe deux aspects complémentaires de la sexualité. L'identité sexuelle qui correspond au genre, masculin ou féminin, et relève de l'espace social, et l'orientation sexuelle qui relève de l'intime de la personne. » Donc Belin y résume en une phrase une confusion que je n'arrive même pas à identifier.
Il faut dire que c'est pas très clair là.
C'est vraiment pas clair. Ouais. Et puis les mots, et je pense que c'est là où on en reviendra tout à l'heure, hein, dans la polémique, pourquoi le sujet de cette polémique, je pense que les mots utilisés sont sortis de contexte et un peu associés les uns aux autres sans réel...
Sans réel sens.
Sens, oui. Exactement. Chez Nathan, sous le titre « Identité sexuelle et normes sociales », on peut lire « Définir l'identité sexuelle n'est pas chose facile ». Si l'on s'en tient à une définition biologique, le genre est défini à la naissance par la nature des organes sexuels externes. D'un point de vue sociologique, l'identité sexuelle se définit davantage comme le genre par lequel une personne est socialement reconnue. Tout ça est très socialisant.
Bah, ça, c'est le but, non?
C'est ça. C'est ça. Et chez Bordas, donc sous le titre « Identité sexuelle ou identité de genre », on peut lire « L'identité sexuelle est le fait de se sentir totalement homme ou femme. Et ce n'est pas si simple que cela peut en avoir l'air. » Point d'exclamation. Cette identité dépend d'une part du genre conféré à la naissance, voire avant du fait du recours à l'échographie, d'autre part du conditionnement social. En effet, chacun apprend à devenir homme ou femme selon son environnement, car on ne s'occupe pas d'un petit garçon comme d'une petite fille. On ne les habille pas de la même façon, on ne leur donne pas les mêmes jouets. Pas mal.
Ben, je pense que avant de vous laisser méditer là sur ces petits extraits, on peut dire que finalement, nous, féministes, on a toujours bien voulu que le genre soit introduit dans tous les manuels scolaires, qu'ils soient de philo, d'histoire, de SVT. Et bon, peut-être qu'on aurait préféré qu'il ne soit pas écrit par les gens qui ont écrit cela. Mais enfin voilà, il y a des choses à boire et à manger. À la fois, ben, oui, il montre que c'est une construction sociale. Et ça, on va voir après que, effectivement, le genre, c'est ça, c'est une construction sociale. Mais effectivement, dans une espèce de confusion de totalement homme, totalement femme, bon, assez rigolote, mais pas... nous pose des questions sur comment est-ce que les profs de SVT vont bien pouvoir enseigner cette question-là. Voilà.
Alors, avant d'expliciter plus justement ce que c'est que le genre et de vous réexpliquer, enfin revenir sur ce concept, cette théorie, cette notion là, dont on va beaucoup parler, on va s'écouter un petit morceau de musique. On va écouter Bend Your Gender de Submission Hold, un groupe canadien.
Yeah!
Bonsoir, vous êtes toujours sur Dégenré. Et donc, nous vous parlions de la polémique autour de l'enseignement de la théorie du genre et des réticences, contresens et refus idéologiques au sujet d'une approche mal connue en France, mais qui est objet de recherche et de publication depuis plusieurs années,
depuis
voire...
moultes années.
Voilà, ça se compte en trentaine, voire plus d'années.
Oui, c'est ça. Là, on peut voir que les députés qui s'opposent, les députés et les associations de familles catholiques et toutes ces personnes-là qui s'opposent à l'introduction de ces petits paragraphes qui pourtant sont quand même relativement inoffensifs, voire incompréhensibles, dans les manuels scolaires, s'insurgent contre une théorie qui serait importée des États-Unis, portée par des groupes minoritaires, mais en fait, c'est pas une théorie... récente ou importée des États-Unis, puisque les premières personnes à travailler sur le genre en appelant ça plutôt rapports sociaux de sexe, ça a été notamment des auteurs français comme Michel Foucault, Monique Wittig, et du coup, bon, ça fait très longtemps. Mais alors, avant de partir là-dedans, on y reviendra plus tard. Alors on va essayer d'expliquer ce concept de genre là de façon assez claire. Du coup, c'est un concept. Le genre, c'est ce qu'on pourrait appeler autrement le sexe social, qui fait que au-delà du biologique, on est rangé dans la catégorie ou classe sociale des femmes ou dans celle des hommes. Le genre, c'est tout ce qui relève du social dans les différences constatées entre les hommes et les femmes, que ce soit dans les divisions au travail ou dans les caractères, les comportements, les apparences qu'on attribue à l'un ou l'autre sexe. Ces caractères, ils sont pas les mêmes d'une société à une autre. Genre, par exemple, dans d'autres sociétés, il y a différentes divisions du travail. Et du coup, on peut se dire que y a bien un aspect variable des sexes et que tout est pas donné par notre anatomie génitale de naissance. et cette variable, c'est construit socialement dès la naissance avec des jeux qui sont attribués ou pas aux enfants en fonction de leur sexe. Avec des injonctions à se comporter de telle ou telle manière en fonction de leur sexe, genre les petits garçons ils doivent pas pleurer, les petites filles on s'attend à ce qu'elles soient douces, coquettes, attentionnées, et ça c'est tout au long de la vie, et ça touche tous les domaines de la vie et de notre construction en tant qu'homme ou en tant que femme, que ça soit des vêtements qu'on va nous offrir, et du coup il y a bel et bien un modelage de la société qui relève pas entièrement du biologique. Et du coup, cette théorie, elle sous-entend que ce que sont et font les femmes et les hommes, et qu'on essaie de nous faire croire spécifique à chaque sexe en fonction de la biologie de nos corps, c'est en fait le résultat d'une construction sociale, le résultat de ce modelage par la société, les parents, l'éducation, des individus de sexe masculin ou féminin pour en faire des hommes ou des femmes. Et nous, c'est une théorie qu'on partage, dans la mesure où on considère que le fait de diviser sur des bases biologiques, qui sont contestables aussi, on pourra en parler plus tard, les êtres humains en deux catégories distinctes, en fait, ça crée deux classes, deux castes, ce qui justifie aussi une division du travail hiérarchique et la hiérarchie tout court. Et du coup, il n'y a qu'un pas à dire que biologiquement, les hommes peuvent être supérieurs aux femmes, et en tant que féministe, nous, ça, on s'oppose à... à ça, quoi. Et oui, aussi, ces différences hommes-femmes, elles servent à justifier un ordre naturel des choses qui craint, quoi. Enfin, c'est pas qu'une histoire, ces histoires de théorie de genre et tout ça, c'est pas qu'une histoire de complot homosexuel pour transformer les petits-enfants en pervers. C'est en fait...
bon outil d'analyse.
Bon outil d'analyse des rapports de domination homme-femme et un bon rapport, un bon outil pour travailler
sur les égalités, sur les égalités, les droits, des luttes contre les violences, contre les discriminations, pour aider à travailler sur les stéréotypes masculins, féminins. Donc ça va au-delà de ce que les détracteurs et détractrices parlent au niveau d'orientation sexuelle ou de choses comme ça.
Et ce que je voulais rajouter aussi par rapport à cette question de la théorie du genre, c'est que oui, bien sûr, ça montre que le sexe, c'est une construction sociale, en fait, donc que c'est un système qui nous fait devenir homme ou femme. Alors, faire devenir, bah, forcément, les associations catholiques, ça leur donne l'impression qu'on pourrait changer comme ça, sur un coup de tête ou par notre propre volonté, du fait de devenir des hommes, des femmes, et oula, ça leur fait très peur. Mais en fait, c'est pas tellement ça la question, le devenir homme ou femme. C'est aussi de montrer en fait que cette construction sociale, elle est liée à l'étude qu'on fait justement de la biologie. C'est pour ça qu'en fait c'est maintenant dans les manuels de biologie. Mmh. C'est-à-dire que c'est pas ce n'est pas qu'une question philosophique, ce n'est pas qu'une question sociale. Ça construit aussi notre vision de ce qui est biologique. Voilà. Et donc on voit bien que les caractéristiques qu'on nous prête comme homme ou femme sont naturalisées, c'est-à-dire que on dit que ben voilà, les femmes sont douces parce que leurs hormones les rendent comme ça ou je ne sais quoi. Mais en fait, cette théorie nous montre bien que c'est l'inverse, c'est plutôt que le fait de considérer qu'il y a des hommes qui sont des êtres dominants, enfin une classe dominante sur les femmes. Ça a divisé en fait le monde en deux catégories biologiques, alors que ces catégories biologiques, les chercheurs nous montrent bien qu'elles sont pas si claires que ça.
Oui, c'est pour ça que je disais que ces bases biologiques sont contestables, dans la mesure où il y a de plus en plus de travaux qui démontrent que ouais, il y a clairement des individus de sexe anatomique féminin et de sexe anatomique masculin, mais il y a aussi toute une gamme de variables même là-dedans, et il y a des travaux en neurobiologie, en anthropologie, dans plein de domaines différents qui justement pointent du doigt le fait que c'est pas si clair que ça, les différences mâles-femelles dans la biologie.
Quand on parle de l'espèce humaine, c'est évident que tout est tout de suite beaucoup plus compliqué. Et quand il s'agit de sexe dans l'espèce humaine, eh bien, en effet, il y a un mélange de faits biologiques qui s'entremêlent à des représentations sociales. Et là, ce qui est redoutable, en fait, c'est que ces personnes-là qui... ces députés qui revendiquent le bon sens pour eux, ils mettent juste en évidence la différence des sexes comme quelque chose d'indiscutable, et ils se braquent sur l'idée de nature, d'une nature immuable, où le mâle et la femelle n'existent que pour copuler ensemble. Et donc du coup, on est dans une idée de nature
Qui est aussi un parti pris idéologique aussi.
Voilà, exactement, c'est ça. C'est l'idée idéologique qui peut être reprochée, en fait, elle est complètement là, quoi.
Ouais, on peut peut-être parler un petit peu de l'identité sexuelle aussi, où, dans la mesure où, justement, dans plusieurs de ces paragraphes présents dans les manuels scolaires, il est question d'identité sexuelle, et on a l'impression que ça déclenche une sorte de glissement chez les détracteurs de cette théorie. Parce qu'en fait, l'identité sexuelle, bah, c'est l'identité sexuée, c'est le fait de se reconnaître ou d'être reconnu comme homme ou femme en raison de son sexe anatomique, donc d'avoir un vagin ou un pénis. Ou... voilà. C'est... et ça, c'est pas le genre. Et ces manuels scolaires ne contestent pas ça. Ils amènent juste la dimension sociale de construction aussi du masculin et du féminin. Mais voilà, les détracteurs de ces théories, ben, pensent que le fait que... que ces quelques petites lignes soient incluses dans les manuels scolaires, ça. Alors pour citer, je crois que c'est Christian Van Est. Il s'insurge parce qu'il dit: les personnes ne sont plus définies comme hommes et femmes, mais comme pratiquants de certaines formes de sexualité, homosexuelle, hétérosexuelle, bisexuelle, transsexuelle. Et alors là, il est vraiment pas question de ça quand on parle d'identité sexuelle. Ça, c'est du registre de l'orientation sexuelle, et aborder les questions de genre, c'est pas forcément en lien avec la question de l'orientation sexuelle.
Là où je pense que cette confusion et ce glissement a été possible, c'est qu'en effet, les instructions officielles, comme on le disait, n'étaient pas claires du tout, et que dans les termes utilisés, en fait, sur une même phrase, on parle dans les instructions officielles d'identité sexuelle, d'orientation sexuelle, de rôle sexuel, et que si si on met plutôt qu'identité sexuelle, on parlait d'identité sexuée, on glisserait moins sur ce terrain de la sexualité à tout va, et comme si nos identités, elles étaient sexualisées ou enfin.
Mais c'est surtout que j'ai l'impression que même dans les instructions, il y a quelque chose d'un peu faux, en fait, par rapport à l'utilisation normale de ces termes, puisque, en général, dans les textes scientifiques de recherche, on parle d'identité sexuelle, donc, comme tu disais, pour dire, pour parler de l'anatomie, c'est-à-dire, est-ce qu'on est né avec plutôt un sexe d'homme ou plutôt un sexe de femme? L'identité sexuée, on a utilisé ce terme-là justement pour parler plutôt des caractéristiques sociales qui sont conférées aux hommes et aux femmes, au masculin et au féminin. Donc identité sexuée, ça serait le masculin, le féminin plutôt. Et l'orientation sexuelle concernerait le fait d'avoir une sexualité hétérosexuelle, homosexuelle, bisexuelle... Mmh. Voilà.
À savoir que transsexuel n'est pas une sexualité.
Voilà, voilà par exemple. Donc on voit bien qu'il y a un gros fouillis, et je pense que ce gros fouillis, il est aussi un petit peu voulu, parce qu'en fait, ces détracteurs du genre dans les manuels scolaires, surtout ce qu'ils veulent faire, c'est faire peur à tout le monde en pensant que, enfin, en faisant croire que les féministes... les minorités sexuelles auraient le pouvoir aujourd'hui dans l'école, voilà. Et je pense qu'on le saurait si on avait le pouvoir.
Ça, et qu'il y aurait une vérité et des repères, et que l'organisation est ainsi faite que tout le reste n'est que faux et idéologie, et voire même, on entrerait dans des sectes, puisque... on en vient à interpeller la mivilude. Donc, c'est quand même pas mal. Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est que les théories du genre, elles ne visent pas à nier ou à haïr les différences. Elles prennent acte qu'il existe des différences entre hommes et femmes, mais elles constatent également que celles-ci, elles peuvent s'expliquer par la biologie, certes, mais pas que. Et qu'il y a une vaste gamme de différenciation entre les individus, pas que entre hommes et femmes, pas que, enfin c'est aussi entre femmes, entre hommes, et que ça varie aussi selon le contexte, comme on le disait un peu avant, que ce soit les cultures, les époques, enfin il y a vraiment plein d'interactions, en fait. C'est institutionnel, c'est environnemental, c'est les individus, c'est de l'ordre de l'intime. Enfin, il y a plein de paramètres à prendre en compte, et c'est en ça où la biologie a tout à y voir, et les autres... domaines aussi, comme la sociologie, la philosophie, l'histoire, je pense qu'on en est là.
Oui, puis ça semble assez dur à contester qu'il y a bel et bien une construction sociale des identités femmes et hommes. Sinon, qu'est-ce que serait censé être une femme? Enfin, juste à se regarder toutes les quatre là dans le studio, on est toutes différentes, il n'y a pas de... Sinon, on serait des modèles standards.
Quelque part, c'est un peu ce que l'idéologie
réactionnaire,
et puis surtout qui en place, parce que c'est quand même pas les minorités qui ont du pouvoir, en tout cas pas que je sache, essaye de faire. Enfin, quand on parle de normes, actuellement, en tout cas dans la société française, j'ai l'impression qu'on sert surtout à normaliser les choses, à rentrer tout le monde dans un même moule, et que du coup, ce qui pose souci, je pense, pour ces détracteurs et détractrices, c'est vraiment ça, c'est que d'un seul coup, il y a une brèche qui s'ouvre pour d'autres possibles. Quand eux parlent de ça oblige les adolescents à avoir un esprit plus ferme, enfin en tout cas les dirige vers des idées, et ça leur ouvre pas des portes. C'est exactement l'inverse qui se passe, c'est que là d'un coup on ouvre des portes et on leur permet d'autres possibles.
Alors avant de se pencher sur du coup les arguments des opposants aux recherches sur le genre, on va écouter un petit morceau de musique aussi qui s'appelle La Photoshormone de Anne Sylvestre.
Elle a raté la mayonnaise, on espère encore qu'elle se taise. Elle a 36 idées par heure, quand elle a pas le fou rire, elle pleure. D'un seul coup, elle est irascible, puis elle devient hypersensible. Elle dit que ça la tarabuste, et elle prétend que c'est injuste. Elle rouspète, elle ronchonne, elle peut plus supporter personne. C'est la faute aux hormones, Simone, c'est la faute aux hormones. C'est la faute aux hormones, Simone, c'est la faute aux hormones. C'est vers 12 ans que ça débarque, elle accepte plus les remarques. Elle désespère l'entourage, en tenue de ski sur la plage. On ne peut plus, et c'est un comble, la plaisanter du bout de l'ongle. C'est l'éternelle féminine qui fleurit en cette gamine. Elle était pourtant bien mignonne, ça y est, elle nous empoisonne. C'est la faute aux hormones, Simone, c'est la faute aux hormones. C'est la faute aux hormones, Simone, c'est la faute aux hormones. Quand c'est devenu la routine, qu'elle y a mis une sourdine, on se croit sorti de l'auberge, c'est alors qu'elle nous submerge de lait, de tétine, de couche. Ah non, il faut plus qu'on y touche, elle se prend pour un tabernacle, on devrait crier au miracle. Elle s'arrondit, elle ronronne, elle n'est jamais là quand on la sonne. C'est la faute aux hormones, Simone, c'est la faute aux hormones. C'est la faute aux hormones, Simone, c'est la faute aux hormones. Quand enfin plus rien ne s'oppose à ce qu'elle nous fasse une pause, n'espérez pas qu'elle se calme, on peut lui décerner la palme de la plus tranquille emmerdeuse. Elle dit qu'elle veut être heureuse, elle dépense, elle dilapide, elle devient extra-lucide. Paraît que c'est la testostérone qui fait les vieilles Amazones. C'est la faute aux hormones, Simone, c'est la faute aux hormones. C'est la faute aux hormones, Simone, c'est la faute aux hormones. Elle fait tourner le lait des vaches, tout ce qu'elle touche, elle le gâche. Elle est folle, elle est hystérique, comprend rien à la mécanique. D'ailleurs, c'est une pécheresse, elle peut même pas dire la messe. L'autorité, elle la sape, elle désespère même le pape. Et pourtant, elle se cramponne, elle manifeste, elle s'époumonne. C'est la faute aux hormones, Simone, c'est la faute aux hormones. C'est la faute aux hormones, Simone, c'est la faute aux hormones. C'est pourtant la moitié du monde, il a fallu qu'elle nous ponde, qu'elle nous abreuve, qu'elle nous torche, qu'elle nous dise qu'on n'est pas si moche, qu'elle nous attende pendant des heures, qu'elle nous console quand on pleure, qu'elle nous veille quand on est malade, qu'elle avale toutes nos salades. Si un jour elle nous abandonne, on trouvera la vie monotone. Et vive les hormones, Simone, et vive les hormones. Et vive les hormones, Simone, et vive les hormones. Et vive les hormones, Simone, et vive les hormones. Et vive les hormones, Simone, et vive les hormones.
Bonsoir, vous êtes toujours à l'écoute de Dégenré, l'émission féministe pour déranger sur Radio Kaléidoscope 97FM. Et ce soir, on vous parle donc de la polémique qui a eu lieu et qui a toujours un petit peu lieu d'ailleurs sur l'introduction des théories du genre dans les manuels scolaires de sciences de la vie et de la terre des classes de première. Alors, après vous avoir, j'espère, un petit peu mieux expliqué ce qu'étaient donc ces théories du genre, enfin j'espère un peu mieux que ces manuels scolaires n'essayent de le faire. Donc on voulait revenir un peu sur les arguments des détracteurs des théories du genre. Revenir sur ces arguments pour les démonter. Alors, en fait, il y a un peu deux arguments principaux pour eux, pour retirer ces manuels scolaires. D'une part, c'est de dire que, en fait, le genre, ce n'est pas scientifique, c'est une idéologie, et donc ça n'aurait rien à faire dans des manuels de biologie. Et d'autre part, de dire que l'introduction du genre, comme on vous disait tout à l'heure en parlant de ces théories, que l'introduction donc des théories du genre dans ces manuels mettrait en danger les valeurs familiales.
Et puis même les adolescents eux-mêmes. Quoi.
Voilà, qu'ils vont devenir tout perturbés. Tout perturbés
parce
sexuellement.
Parce qu'ils ne le sont pas encore.
Donc, pour commencer sur cette question de scientificité, je voulais revenir un petit peu sur cette question de est-ce que les théories du genre seraient une idéologie, ne seraient pas scientifiques, et la différence en fait que font ces opposants à la théorie du genre entre ce qui est scientifique et qui donc pourrait être dans des manuels de biologie et ce qui ne serait pas scientifique et donc pourrait être dans des manuels de sciences humaines à la limite ou de philosophie. Donc déjà, ils font bien cette distinction entre les sciences naturelles, en fait, et d'ailleurs, elles ne portent pas ce nom pour rien, je pense. Donc c'est très naturel. Et les sciences humaines, et les unes seraient bien plus scientifiques que les autres, en fait. Les unes seraient scientifiques et les autres, ce serait des idées comme ça qu'on s'échangerait. On pourrait ne pas être d'accord, n'est-ce pas, dans les sciences humaines, alors que dans les sciences naturelles, ce serait en fait la vérité scientifique et une démonstration de ce qu'est la réalité naturelle, la réalité biologique. Et j'ai l'impression que Christine Boutin, Christian Van Est, je sais pas, ils ont dû arrêter de lire il y a 50 ans ou alors ils sont peut-être pas allés à l'école, je ne sais pas.
Ont-ils jamais lu?
Mais moi en tout cas, quand je suis allée à l'école, par exemple en classe de philo, en terminale ou même après à la fac, on m'a appris que l'épistémologie, c'est-à-dire justement l'histoire des sciences et des connaissances, a depuis longtemps remis en cause cette idée qu'il y aurait un savoir objectif, une vérité scientifique, et que les sciences seraient là, on serait là avec notre petite loupe pour chercher justement et trouver cette vérité scientifique, ce savoir objectif. Et voilà, donc ces études d'épistémologie, elles ont montré en fait depuis longtemps que les savoirs, ils sont construits, c'est-à-dire que c'est à partir de théories que l'on a, d'hypothèses que l'on fait, et donc à partir d'un construit social, en fait, que on se pose des questions et qu'on va justement faire des recherches scientifiques et faire des recherches même expérimentales, parfois, et qu'en fait, cette manière de se poser des questions montre bien que ce qu'on va trouver, ce n'est pas une réalité objective, mais bien plutôt un savoir qu'on a construit socialement. Voilà. Donc ça, c'est une première chose que je voulais dire par rapport à cette question de la scientificité. Là, en fait, on ne peut pas dire, il y a des sciences naturelles qui sont vraies et puis des sciences humaines qui sont discutables. Les deux sont quand même très liés et justement, il y a toujours des va-et-vient entre les disciplines. Et là, pendant cette polémique, les biologistes, les chercheurs en sciences humaines ont écrit plusieurs pétitions et articles pour revenir sur cette question-là, parce que, quand on entend Christine Boutin, on croirait revenir au siècle dernier. et puis, je voulais aussi dire que, en plus, justement, les féministes, elles ont apporté des nouvelles contributions à cette épistémologie. À cette histoire des connaissances, cette philosophie des sciences, en montrant justement comment, sous couvert de neutralité, en disant que tout ça c'est objectif, les sciences finalement ont souvent servi des projets de domination Et puis que finalement, c'est essayer de faire accepter comme neutre et universel des intérêts particuliers, les intérêts en fait de la classe dominante, puisqu'on a bien vu que les scientifiques, très majoritairement, sont des hommes blancs occidentaux, et que donc leur vision du monde, elle est modelée par... par leur vie d'hommes blancs occidentaux. Et que quand on est une femme et qu'on n'a pas accès justement au pouvoir, quand on est une minorité racisée et qu'on n'a pas accès au pouvoir, eh ben, on n'a pas non plus accès à la science et à cette construction en fait de la réalité scientifique. Voilà.
Et puis j'ai l'impression qu'il y a une transversalité des champs de recherche. En fait, les recherches en sciences humaines ont un impact sur les sciences dures. Et en fait, c'est comme ça que la recherche avance aussi. Ça permet de renouveler, de porter un nouveau regard sur des recherches qui sinon se seraient arrêtées il y a 50 ans quand on a découvert des réalités biologiques incontestables, comme que l'herbe est verte.
Donc là, si je résume bien... ça voudrait dire que les sciences biologiques, là, dont on parle, sont complètement dans l'illusion en pensant qu'elles sont à l'abri des représentations qui traversent la société dans laquelle les théories et les expériences sont formulées.
Oui, et je sais pas, j'avais l'impression que tu n'avais pas un petit extrait de texte que tu voulais nous lire par rapport à ça.
Oui, il y a des biologistes donc qui travaillent un peu là-dessus et qui disent bien que c'est pas immuable, qu'il y a qu'entre eux et elles, ils se contredisent, ou en tout cas ils se rendent compte que s'il y a des choses qu'ils ont observées à un moment, ils les ont parfois mal observées, et que sous un autre prisme, eh ben, il y a encore des choses qui se révèlent. Et donc aussi que des récents, donc je cite, c'est Thierry Toyer, qui dit que de récents travaux portent sur la construction du corps dans l'interaction gène-environnement. Ils réfléchissent à des modèles qui permettent de penser comment nos corps sont à la fois entièrement biologiques et entièrement sociaux. Par exemple, on associe l'ostéoporose aux femmes âgées, mais il faut se poser la question, est-ce là une maladie liée au sexe féminin, dont le secret serait enveloppé par exemple dans les chromosomes sexuels, ou une maladie qu'il faut attribuer au genre, à l'organisation sociale, c'est-à-dire au fait que leur vie durant, de gré ou de force, les femmes en général mangent moins de protéines ou de laitages, font moins d'exercice physique, mènent une existence plus confinée et sédentaire, sont moins exposées à la lumière du soleil, etc. Il me paraît impensable que tout cela n'ait aucune influence sur la structure et la solidité des os, et sur l'ensemble du corps féminin. Donc oui, la théorie du genre a définitivement sa place dans les manuels de biologie.
Oui, ben je trouve cet extrait intéressant, parce qu'on voit bien là que les théories du genre, elles ne sont pas confinées voilà, à l'étude des sciences politiques ou des sociétés. Mais que ça a des impacts concrets en fait sur la biologie, d'une part parce que bien sûr la société, là comme on le voit par rapport à l'ostéoporose, elle a un impact sur nos corps, mais aussi même juste dans la manière dont on regarde les choses. Par exemple, comme quand on regarde les mammifères, on voit toujours qu'il y a, enfin quand on regarde la plupart des espèces d'animaux, on voit des mâles et des femelles. Et puis maintenant, en biologie, on se rend bien compte, et ça grâce à des théoriciennes féministes, biologistes, que en fait, bien sûr que si on regarde pour chercher des mâles et des femelles, on va trouver des mâles et des femelles, alors que souvent, en fait, la réalité biologique, elle est plus complexe que ça. Et elle n'est pas, et que la biologie des êtres vivants n'est pas que tourné autour de la procréation et de la reproduction. Voilà. Donc ça, c'était un petit point, voilà, pour parler de la scientificité, de la neutralité, de l'objectivité.
Ça et le fait que, en fait, donc toutes ces personnes qui sacralisent le discours scientifique et qui sont hostiles à l'enseignement du genre, elles se sont pas vraiment intéressées aux sciences, puisque des travaux de biologistes, il y en a beaucoup. Et notamment, on peut aussi se référer à la neurobiologiste Catherine Vidal, qui a écrit « Le cerveau, sexe et pouvoir » et qui passe en revue de nombreux arguments invoquant la nature et s'appuie sur les dernières études scientifiques parues et sur le sujet et sur ces sujets-là pour dénoncer que presque tous les arguments sont basés sur des idées reçues et fausses. D'une part, il n'existe pas de point commun significatif à l'ensemble des cerveaux féminins ou masculins. Et d'autre part, le développement du cerveau est extrêmement conditionné par les interactions avec l'entourage, ce qui minimise toute explication naturaliste. Et elle parle, donc elle développe la notion de plasticité cérébrale. Donc tout ça pour dire que en effet, tout est imbriqué, quoi.
Ouais, elle démontre qu'il n'existe pas de traits anatomiques spéciaux qui différencient les deux sexes. Et moi, je trouve ça assez incroyable. Enfin, justement, c'est une neurobiologiste. On peut pas l'accuser d'être de travailler dans le domaine des sciences humaines
sciences molles.
Que les différences entre les individus d'un même sexe sont tellement importantes qu'elles l'emportent sur les différences cérébrales qui pourraient exister entre les sexes. Et en fait, on continue à essayer de nous faire croire et à continuer de justifier biologiquement les différences de comportement entre les sexes en occultant totalement ces travaux. Et en fait, ça, c'est parce que la biologie peut être utilisée à des fins idéologiques. Il est plus simple d'expliquer des inégalités en disant que les hommes et les femmes sont biologiquement différents. Par exemple, dans leurs aptitudes à l'école, que d'accepter l'idée que les inégalités elles sont dues à l'organisation de la société. Et du coup, c'est très, 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 très intéressant dans une société patriarcale de défendre ce point de vue-là, que le biologique est une valeur sûre de l'identité homme ou femme.
Eh ben, sur ce, on va peut-être écouter un petit morceau de musique avant de passer aux arguments sur les valeurs familiales.
Alors, on pourra écouter « Sans contrefaçon » de Mylène Farmer.
Cool.
Dis maman, pourquoi je suis pas un garçon? We'll be right back.
bonsoir. Vous êtes toujours sur Radio Kaléidoscope 97 FM à Grenoble et vous écoutez toujours Dégenré. Alors, on va maintenant se pencher sur, sur d'où viennent exactement les attaques contre cette fameuse théorie du genre. Alors, quand on creuse un peu, en fait, on s'aperçoit que les premières personnes à alerter les politiques sur l'introduction de chapitres sur la théorie du genre dans les manuels scolaires, ce sont en fait les associations catholiques, les associations de familles catholiques, en général assez réactionnaires et qui s'étaient déjà bien fait remarquer au moment de l'adoption du PACS. Et du coup, ça a été relayé par Christian Van Est, Christine Boutin et d'autres
politiques
de cet acabit. Oui. Et ils avancent même pas, ils avancent même pas masqués, quoi. C'est très clair et net. Par exemple, dans la lettre adressée au ministre de l'Éducation nationale par les 80 députés UMP opposés à l'enseignement de la théorie du genre, ils citent Gérard Leclerc. Alors Gérard Leclerc, c'est un éditorialiste à France Catholique et à Radio Notre-Dame, qui travaille ponctuellement pour Famille Chrétienne et qui a été très actif sur la question du PACS. Il a notamment écrit un livre qui s'appelle « L'amour en morceaux » ou de l'euthanasie ou de toutes les questions qui sont posées par la révolution culturelle américaine. C'est vraiment... C'est les Américains, encore un coup.
Ces méchants Américains.
Et du coup, on voit bien d'où viennent ces attaques. Et quand on creuse un peu, on peut s'apercevoir que c'est même pire que ça. Parce que par exemple, lors de la remise des insignes de docteur honoris causa à Judith Butler par... l'université Michel Montaigne de Bordeaux 3, il y a eu une perturbation organisée par des militants du Renouveau français, qui est un mouvement nationaliste d'extrême droite, particulièrement à droite. Bon, ils trouvent que Marine Le Pen est un petit peu trop gentille, avec des panneaux « Judith, tu me les coupes », enfin vraiment des espèces d'arguments. Enfin, on voit que c'est voilà d'où viennent ces critiques, en fait. Elles viennent de l'extrême droite, des familles catholiques et elles servent à défendre un ordre que nous on juge totalement rétrograde et dépassé, quoi. Enfin, et en tant que féministe, on peut pas ne pas s'insurger contre le fait qu'ils aient un droit d'ingérence dans ce qui paraît dans les manuels scolaires, dans les mesures où c'est certainement pas aux religieux de dire de définir ce qui est scientifique ou pas. Ils n'ont rien à faire dans des commissions de bioéthique, et c'est pas non plus d'ailleurs aux politiques de définir ce qui est scientifique ou pas. Ce qui serait quand même une sorte de porte ouverte vers tout un tas de dérives.
Et donc en fait ces catholiques ils s'attaquent au genre parce que parce qu'ils sont pas bêtes aussi, ils voient bien que justement introduire le fait que il y aurait une construction sociale des identités sexuées, ça remet en cause en fait leur ordre moral, voilà.
Non. Oui, un ordre qui est en train de se fissurer de toutes parts actuellement, et du coup il y a un sursaut de ces franges-là de la société qui je pense, commence à paniquer de voir un modèle familial hétéro-patriarcal tout à fait oppressant et qui ne mène pas forcément du bien-être, ni aux jeunes, ni à qui que ce soit d'ailleurs, se fissurer de partout.
Et alors, par rapport à cette question-là, des valeurs familiales et du lobby catholique qui veut essayer de contrôler les enseignements qui sont donnés à l'école, on peut dire que, enfin, d'accord, il y a l'introduction de la théorie du genre dans les manuels, enfin dans certains manuels scolaires, mais on peut pas dire que l'enseignement qui est donné aujourd'hui dans l'éducation nationale soit intéressant que ça, justement, par rapport aux identités sexuelles, par rapport à l'orientation sexuelle aussi, et puis tout simplement par rapport à l'éducation sexuelle. Enfin, nous, quand même, très régulièrement dans cette émission, on déplore le fait qu'il n'y ait aucune éducation sexuelle qui soit donnée dans le cadre scolaire. Et en fait, ben voilà, ces associations familiales catholiques, dès qu'il y a une petite avancée qui est faite dans ce sens-là, commencent à envoyer des courriers de partout pour que surtout ça s'arrête.
Ouais. Oui, puis du coup, ces petits chapitres, ils ouvrent très, 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 très légèrement la voie à une parole dans les manuels scolaires sur la sexualité en tant qu'autre chose qu'outil de reproduction de l'espèce humaine. Et notamment aussi, ça parle d'homosexualité, en tout cas, ouvre la possibilité d'en parler. Mm-hmm. Et on a l'impression que c'est surtout ça qui déclenche les foudres des associations familiales et catholiques. Et les 80 députés, du coup, réclameraient que l'éducation à la sexualité se consacre à des questions de santé publique et à des problématiques concernant les relations entre garçons et filles. Sauf que c'est justement le but de tel paragraphe. Et que la sexualité, ça ne concerne pas que les relations entre les garçons et les filles. Ça concerne les garçons tout seuls, les filles tout seules. Ça concerne les garçons et les filles. Et ça concerne également les garçons et les filles et avec les filles. Et si en 2011, on aborde enfin l'homosexualité, ça a peut-être justement un objectif santé publique quand on sait que les tentatives de suicide pour les jeunes homosexuels âgés de 12 à 19 ans est de 28%, ce qui est un taux 7 fois plus élevé que le taux de 4% qui est observé chez les jeunes hétéros. Et c'est peut-être pas pour rien, c'est peut-être parce que justement on essaye de nous faire croire que c'est une déviance, que si on n'a pas une sexualité uniquement à but reproducteur, c'est mal. Si on n'est pas attiré par les filles mais par les garçons quand on est un garçon ou vice-versa, on n'a pas de modèle ni de visibilisation de quoi que ce soit qui puisse nous ressembler.
On
serait une erreur de la nature. Auquel cas, c'est vrai qu'à ce moment-là, quand on est isolé à ce point-là, et qu'on est jeune et qu'on est à la recherche d'informations, des fois, la seule solution, c'est le suicide.
Là, ça montre bien qu'on est vraiment dans une société actuelle, alors qu'il n'est pas du tout en retard, parce que les recherches existent, il y a plein d'études diverses et variées, mais qu'on est vraiment dans une société qui bloque et qui ne veut surtout pas avancer sur le chemin de l'épanouissement, d'autres possibles, de... Et c'est vraiment très très français, j'ai l'impression. On peut trouver ça ailleurs, mais je pense qu'en tout cas en France, on en est là. On est dans une société qui bloque, une société où, quand tu disais que qui se mêle des études et d'autres champs, c'est en effet le politique, que toute l'organisation de la société humaine relève justement de choix politiques et que dans la société et non dans la nature, c'est le politique qui décide quel mode de vie on doit avoir. Et il se trouve qu'actuellement, notre modèle politique est assez centré à droite et qu'on est dans une culture quand même plutôt judéo-chrétienne où pour eux, en effet, ils se sont imbriqués dans ces amalgames et contresens qu'ils ont joyeusement... détourné, utilisé, mis à mal, parce que c'est ce qu'ils craignent en fait, c'est comment remettre, ce qu'ils craignent, c'est cette remise en cause de la famille,
d'un ordre hétéropatriarcal,
qui est le socle de l'organisation sociale actuelle en fait. Et ce qui est, c'est une vision en effet réductrice de leur part. Et ce qui est d'autant plus effrayant, c'est que non seulement ça bloque, ça donne du coup l'impression qu'on est à une époque, genre 20 ans en arrière, voire plus, où on continue à militer pour que ça ne bouge pas et qu'on conforte encore la position de l'homme dominant, qu'on théorise l'infériorité des femmes, que du coup on la moindre porte qui pourrait s'ouvrir pour des avancées, on essaye de la maintenir fermée, quoi.
Et quand on voit la taille de la porte,
c'est une toute petite porte.
C'est pas non plus.
Sur ce, on va écouter Capital de Infidèle Castra.
Ça c'est génial, l'hétérosexualité n'est pas plus normale. Oh non, 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 que les homosexualités, ça c'est génial, elle est normalisatrice et ça c'est capital pour préserver et maintenir le dominant ordre moral. Elle est normalisatrice et ça c'est capital pour préserver et maintenir le dominant pouvoir patriarcal.
Bonsoir, vous êtes toujours sur Dégenrer, l'émission féministe pour déranger, et ce soir nous parlons de l'introduction du genre dans les manuels scolaires et des débats que ça a suscité. Donc j'espère que vous avez été d'accord avec nous pour dire que les arguments présentés par les détracteurs des théories du genre étaient complètement pourris. et on voudrait parler maintenant de cette polémique et de ce qu'elle suscite au niveau des institutions, en fait, pour montrer que, il y a peut-être en fait une double stratégie de la part de ces lobbies catholiques et réactionnaires. C'est d'une part donc de critiquer cette théorie du genre qui remettrait en cause les valeurs familiales.
L'ordre moral,
hétérosexuel, patriarcal, tout ça. Mais aussi de permettre petit à petit à l'État, aux institutions, de rentrer petit à petit, en fait, dans le contrôle de la recherche, d'une part, et des contenus scolaires. Parce qu'on a vu là, dans cette polémique sur le genre, beaucoup de ressemblances en fait avec ce qui s'était passé en 2005 au moment de la polémique sur la reconnaissance du rôle positif de la colonisation. Justement dans les programmes scolaires. Donc je voudrais revenir un petit peu là-dessus parce que on se rend compte que vraiment ces deux histoires-là sont très liées. Parce que donc en 2005, il y a une loi en fait qui a été votée le 23 février qui contenait un article, l'article 4 alinéa 2, qui disait que les programmes scolaires reconnaissaient en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, et accordé à l'histoire et au sacrifice des combattants de l'armée française issus de ces territoires la place éminente à laquelle ils ont droit. Donc cet article-là fait partie donc d'une loi qui en fait reconnaît la contribution nationale des Français rapatriés, donc des harkis. Et dans cette loi-là, eh ben, figurez-vous que c'est Christian Van Est, le même.
Oh, mais il revient.
Qui est partout.
Qui a introduit un amendement pour, voilà, pour demander que dans les programmes scolaires soit reconnu et enseigné le rôle positif.
Enfin, c'est de la domination.
Voilà, de la domination coloniale. Donc, ça a suscité des grandes polémiques et puis bien sûr les professeurs d'histoire au lycée, les chercheurs en histoire à l'université, au CNRS ont écrit des pétitions et ont demandé à ce que cet article-là soit abrogé. Ce qui finalement d'ailleurs a été fait, hein, en 2006, il a été finalement abrogé. Mais ce qu'on voit bien, c'est que voilà, donc déjà il y avait une tentative de introduire dans une loi en fait quelque chose sur les programmes scolaires spécifiquement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que deux mois plus tard, en avril 2005, la Commission nationale des programmes a été remplacée. Donc cette commission des programmes, elle réunissait en fait des profs des différentes disciplines qui se mettent d'accord pour établir les programmes. Et donc ça a été remplacé par un Haut Conseil de l'éducation qui est composé de personnes nommées en fait par le président de la République, les présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat, tout ça. Donc ça veut dire des personnalités expertes entre guillemets, mais qui sont nommées en fait par le pouvoir politique en place, et ce pour 6 ans. Donc on voit bien là qu'il y a petit à petit un glissement pour que les gouvernements en place puissent avoir la main mise en fait sur les contenus scolaires, enfin une manière de contrôler. De contrôler l'école.
Ce qu'on nous enseigne.
Voilà, exactement. Alors, bien sûr, ce qu'on nous enseigne, les choix de ce qui est enseigné, c'est politique. On ne peut pas dire que ça ne l'est pas. Les profs aussi font des choix politiques dans ce qu'ils enseignent. Mais justement, il y avait encore peut-être une certaine forme de liberté pédagogique qui existait et qui est grignotée petit à petit. Et en fait, il y a un contrôle social de plus en plus grand de ces choses-là. Et aujourd'hui, en fait, avec cette polémique sur le genre, y a des députés qui ont demandé à ce qu'il y ait une
mission parlementaire.
Voilà, une mission parlementaire sur les programmes et les manuels scolaires qui soient mis en place. Et en fait, avec la polémique, ça a été accepté. Et donc, il y a une mission parlementaire qui a été mise en place. Ça veut dire des parlementaires qui sont en ce moment en train de discuter de l'élaboration des programmes,
du contenu.
Voilà, et aussi de l'élaboration des manuels scolaires. Alors que quand même, on pensait qu'en France, il y avait une certaine liberté éditoriale qui permettait,
une certaine indépendance.
Voilà, qu'on ne censure pas, n'est-ce pas, les livres qui sortent. Mais enfin bon. Et donc cette mission parlementaire, elle doit aborder ces trois choses-là. Comment sont faits les programmes, le contenu des programmes, comment sont faits les manuels scolaires et comment est-ce que l'État pourrait avoir un certain contrôle sur l'écriture des manuels scolaires, et la théorie du genre, parce que ça serait quand même plus sympa si on pouvait se débarrasser de cette théorie du genre. Voilà. Donc là, on voit bien aussi qu'au-delà de la question des théories du genre et nous, de notre défense en tant que féministes de l'enseignement de ces théories, je pense qu'il faut aussi qu'on soit assez attentive en fait au fait que c'est pas que sur le plan féministe que ça se joue. Enfin, c'est sur le plan du contrôle social général, c'est-à-dire que petit à petit... L'État essaye de faire en sorte que les minorités et que la liberté pédagogique soient contrôlées. Oui.
Dans Mais tranquille.
Alors, est-ce qu'on ne parlerait pas des autres initiatives qui existent déjà en milieu scolaire ou qui n'existent pas en milieu scolaire et ailleurs, à destination des enfants, pour aborder les questions de genre ? Parce qu'il y en a quand même déjà plusieurs qui existent en dehors des manuels scolaires.
Oui, il existe des choses, évidemment, dans le scolaire, alors à part peut-être des professeurs un peu militants et qui osent affronter le système, qui les broient, il y a des petites associations qui mettent en place des formations, des interventions en milieu scolaire ou même ailleurs. Donc, elles sont pas si nombreuses, mais elles existent. Et notamment à Grenoble, on a Virus 36 qui intervient en milieu scolaire, mais aussi auprès de formations pour adultes dans les milieux sociaux, de santé et de choses comme ça. Après, on a plus globalement, on a des assos qu'on peut retrouver un peu plus au niveau national, comme les CMEA ou les Petits Égaux. Et aussi dans la formation pour les professeurs, j'ai trouvé un site qui apparemment offre aussi des formations qui s'appelle Adéquation. Et à Grenoble aussi, il y a un groupe qui s'appelle Cortex, qui est un site internet qui est pas mal fait sur cette question-là, qui revient un peu sur des questions de genre et qui a une petite bibliothèque plutôt intéressante et tout à fait abordable, et qui apparemment propose aussi des formations. Donc voilà, il y a plein d'initiatives... de différentes associations, mais j'ai l'impression que c'est un peu ça, c'est qu'il faut construire ces initiatives. Elles vont pas être à l'intérieur du système scolaire tel qu'il est actuellement. Oui. De toute façon, on voit bien qu'il est sous contrôle, donc.
Je pense qu'on peut aussi ajouter dans ta liste d'assos qu'il y a aussi le planning familial qui fait des interventions en milieu scolaire, alors sur les questions de sexualité, mais donc avec quand même une approche en général féministe et qui permet justement de parler, bon, d'une part de réduction des risques, de contraception et donc enfin de choses comme ça, mais aussi de sexisme, de relations hommes-femmes, de domination, et qui parle aussi des différentes sexualités qui existent, enfin pour essayer aussi de laisser un espace de parole aux élèves par rapport à ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? oui, que effectivement tout ça, ce n'est pas dans le système scolaire, c'est à côté. C'est-à-dire que la mission de l'école, sa mission de santé publique et d'éducation à la sexualité, en fait, elle ne l'assume pas du tout elle-même. Elle préfère toujours le laisser aux autres et, si possible, d'ailleurs, sans trop les payer et le moins possible en général.
Et après, il est aussi possible, en tant que parent, ou même juste en tant qu'adulte en contact avec des enfants, de faire attention à quel jeu on offre à un petit garçon ou à une petite fille, à quel comportement on va stimuler chez un petit garçon ou une petite fille, à quel livre pour enfants on va leur offrir. Et ça, il commence à y avoir pas mal de choses au niveau des livres pour enfants. J'ai l'impression que ça commence vraiment à évoluer et qu'il y a vraiment des...
Oui,
des avancées assez chouettes. Et ça, c'est vrai que c'est, en dehors du milieu scolaire, c'est aussi des petites attentions qu'on peut avoir pour justement essayer de dépasser ces limites du genre là qui servent en fait à établir des discriminations et des inégalités.
Et puis il y a aussi par rapport au manuel scolaire, puisque c'était ça le début de notre conversation, des groupes de chercheuses féministes qui essaye de compiler justement les différents manuels scolaires pour voir quels sont les manuels scolaires qui sont ouvertement sexistes, pour les dénoncer, et essayer de pousser à ce que les manuels scolaires n'aient pas de représentation sexiste, et essaye de montrer au contraire la diversité
De réalité.
Des réalités, oui, exactement.
Mm. Oui, sortir des stéréotypes.
Mm. En tout cas, là, ce que ça me fait penser, tout ça, depuis le début de l'émission, c'est vraiment que tous les détracteurs et détractrices de ces théories, enfin, ils appellent ça la théorie du genre, mais on parle bien des théories, parce que c'est un vaste champ de recherche qui est sujet... à évoluer, qui est sujet à interprétation, qui est sujet à débat permanent, et aussi donc du coup à des pratiques concrètes pour transformer la société et la faire évoluer, et que ces personnes-là, ils sont tellement peu intéressées et ont fait des raccourcis tellement énormes qu'elles devraient un petit peu lire. Chose que je pense qu'elles n'ont pas fait, parce que pour réduire la théorie du genre à Judith Butler et aux États-Unis, c'est qu'elles ont vraiment fait des raccourcis énormes et qu'elles n'ont pas pris la peine de lire.
Même si Judith Butler, c'est sympa.
Oui, tout à fait. Mais il n'y a pas que ça. Et en plus, enfin, c'est vraiment parler de choses qu'on ne sait pas. Enfin, j'ai l'impression que, justement, quand ils parlent de Judith Butler, ils savent même pas de quoi ils parlent. Ils sont capables de dire que Judith Butler est contre la théorie du genre. Donc, on a vu ça aussi parmi les nombreuses absurdités. Et donc, que ces personnes, elles auraient réellement besoin de s'informer et d'être formées à l'approche du genre. Je dis bien à l'approche du genre. Et donc ces personnes, mais aussi les professeurs, parce que c'est pas le tout d'avoir des manuels scolaires comme Hachette, Belin, Nathan, Bordas, qui sont pas toujours très clairs. Moi, je me demande comment les profs de bio là, ils vont faire leur présentation, tout ça, quoi, parce que s'ils se sont pas un peu intéressés à la question en dehors des manuels scolaires.
Surtout que il faut savoir que. Avant, il existait l'UFM pour que l'UFM qui formait les profs. Et justement, par exemple, à l'UFM de Lyon, il y a des chercheuses féministes qui avaient mis en place des formations pour que les différents profs qui passent par l'UFM aient au moins un minimum de formation sur les théories du genre. Et aussi pour que dans leur pédagogie, en fait, ils ne transportent pas plein de stéréotypes sexistes, voilà. Parce qu'on se rend bien compte aussi que une manière justement de garder la domination masculine dans la société, c'est de l'enseigner en fait, et que il y a beaucoup de stéréotypes et de normes sociales qui passent par l'école en fait et par les contenus enseignés, mais aussi par les pédagogies utilisées. Et donc ça, il y avait eu un début de petites choses qui étaient faites là-dessus, mais en fait, comme il n'y a plus de formation des profs maintenant...
Non mais on verra mieux.
Oui, voilà. Je pense qu'ils peuvent se débrouiller tout seuls, et on sait très bien comment ça va se passer justement pour ces questions du genre, parce que si on n'a pas une petite volonté de faire changer les choses, elles ne vont pas changer toutes seules.
Oui. Et du coup, en fait, au-delà des professeurs de biologie qui devraient s'intéresser d'eux-mêmes et d'aller chercher un peu dans la bibliographie, parce que ça suffira pas les manuels scolaires. Il faudrait favoriser ce qu'on disait au tout début, l'interdisciplinarité, et qu'il y ait des échanges entre les profs de bio, d'histoire, de socio, de philo, et comme tu le disais, éradiquer tous les stéréotypes sexistes qui existent dans les nombreux manuels scolaires. Donc il y aurait tout ça, il y aurait un gros travail. Après, là on n'aura peut-être pas forcément le temps de vous donner une bibliographie qui serait abordable, parce qu'il existe énormément de choses, mais peut-être on peut le mettre sur le site de Dégenré.
Mmh. Sur Radio Rageuse.
Radio Rageuse.
Radio-rageuse.org. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur le site radiorageuse.org. Et moi, j'avais envie de parler aussi d'une exposition qui a lieu. Alors, c'est en région parisienne, si jamais il y a des personnes dans la région parisienne qui nous écoutent. Alors, c'est très étrange. Ça a l'air de se passer dans un centre commercial, le centre commercial Rosny 2 en Seine-Saint-Denis. Mais c'est dans l'espace Tête à Tête, qui est un espace d'info, de prévention et d'écoute à destination des 13-25 ans. Et c'est une exposition qui s'appelle La Fabrique à Sexe, qui a lieu jusqu'à juin 2012 et qui prend le contre-pied des clichés véhiculés sur la construction des hommes et des femmes, en donnant à voir le formatage des filles et des garçons à travers vraiment une sorte de chaîne de fabrication. Ça a l'air assez ludique. Puis un contrôle qualité qui révèle en fait l'envers du décor, discrimination et inégalité. Et ça avait l'air assez chouette. Quand je suis tombée dessus, je me suis dit « Ah, ça a l'air ludique et à destination des jeunes et assez clair et concis. »
C'est judicieux, un centre commercial en plus, pour toucher les jeunes.
Oui, c'est ça. Alors, je me suis trompée sur... on m'annonce que je me suis trompée sur...
L'adresse du site internet,
qui est en fait www.radiorageuse.net et pas org. Je me suis complètement trompée. On va peut-être écouter un petit morceau de musique avant de passer aux infos et à la fin de l'émission. Mm-hmm. Alors, on va écouter Closet de Genro.
I never meant to hurt you. I never meant to make you.
Alors, l'émission touche à sa fin, alors on va juste en profiter pour vous transmettre quelques petites informations. Alors, ce soir, après nous avoir écouté, vous pouvez vous rendre à Antigone, au 22 rue des Violettes, pour une soirée sur les radios libres, pour célébrer les 30 ans d'existence des radios libres. Alors voilà, il y a ça à Grenoble, et sinon j'ai plutôt des infos sur Lyon. Alors à Lyon, il y a une exposition en ce moment qui s'appelle... Féminisme, homosexualité, liberté sexuelle, qui a lieu du 10 décembre au 7 janvier 2012 au bar de l'autre côté du pont, dans le cadre de l'événement 50 ans de presse alternative à Lyon et sa région. C'est une exposition qui présente une série de une de revues militantes produites à Lyon, des années 70 à aujourd'hui, dans le champ des luttes féministes et transpédéguines. Il y a des unes de femmes travailleuses en lutte, Star, la revue queer pour ceux et celles qui veulent toucher les étoiles... Guéridon, La Monstrueuse, tout ça. Alors ça se passe au 25 cours Gambetta, dans le 3e arrondissement. Et il y a aussi, alors ça c'est une info que j'ai reçue, mais j'ai pas encore eu l'occasion de tomber sur le site. Il y a le Planning Familial du Rhône qui vient de lancer un nouveau blog pour tout savoir sur l'actualité des luttes et réflexions féministes à Lyon et sa région, qui s'appelle Super Féministe. Et le 16 décembre à 20h30, il y a la projection de Tomboy qui a été projetée récemment à Grenoble à la BAF, qui est un film sur justement ces questions de genre et de troubles dans le genre. Et ça a lieu à la Plume Noire, 8 rue Diderot, à 20h30. Et au même endroit, le lendemain, il y a une rencontre débat organisée par la coordination des groupes anarchistes sur le thème « Genre et patriarcat, quelle lutte antisexiste ?» Et ça, c'est à partir de 15h. Alors voilà, on va se quitter sur un morceau qui s'appelle « Sex is for making babies ». Vous comprendrez que c'est ironique, bien sûr, de « God is my co-pilot ».
Bonsoir.
Sex is for making babies, sex is for making babies, sex is for making babies.